Alors, je vous invite à la prière. On va commencer par la prière. Notre bon Père Céleste, nous sommes devant toi ce soir. Et nous voulons te demander de nous aider par ton esprit à te connaître davantage, à connaître davantage ton Fils dans la communion du Saint-Esprit. Nous avons besoin que illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions vraiment mieux comprendre ton amour, la grâce que nous voyons en Jésus. Nous avons besoin de mieux cerner ton appel, l'héritage qui est le nôtre en Christ. Et je te demande de m'aider aussi à expliquer ta parole de manière fidèle. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, ce soir, nous allons parler de notre piété ou notre relation personnelle avec le Dieu trinitaire. Ce que je veux mettre en avant ce soir, c'est moins l'idée de comment intégrer la doctrine de la Trinité dans notre prière ou dans le culte, la liturgie du culte, mais plutôt l'idée d'une piété biblique chaleureuse qui puise dans la connaissance, une connaissance relationnelle, vivifiante, de notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais on va quand même toucher aussi à ces questions de notre prière et notre ministère en Église. Si nous connaissons notre Dieu, si nous le connaissons d'une manière personnelle, de plus en plus personnelle, comme Père, comme Fils, comme Saint-Esprit, je suis persuadé que c'est cette connaissance-là qui va faire jaillir la joie, la paix, la crainte filiale, et tout ça va se sentir dans notre piété, dans notre manière de prier, dans notre manière de vivre notre relation avec Dieu, dans notre manière de vivre le culte, vivre l'Église. Jésus a dit à ses disciples, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, connaître de manière personnelle le Père, connaître Jésus-Christ, notre grand frère, et par extension, connaître le Saint-Esprit, c'est toucher à la vie éternelle. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'on peut y goûter déjà. On peut déjà goûter à cette vie trinitaire, cette vie éternelle, connaître le Père, connaître le Fils. L'apôtre Paul a dit, 1 Corinthiens 13, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Et ce projet connaître notre Dieu trinitaire, c'est vraiment son projet éternel. C'est ce pourquoi Dieu nous a sauvés. Et c'est donc vraiment la base de notre piété, notre relation personnelle avec Dieu, c'est vraiment le connaître. Alors, en ce qui concerne la structure, j'ai pas de PowerPoint ce soir, mais en ce qui concerne la structure, donc on va commencer avec deux questions personnelles, qui étaient personnelles pour moi, à savoir, est-ce que je connais le Père? Et dans une moindre mesure, est-ce que je connais l'Esprit? Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais y répondre par une section intitulée « Je connais le Père par le Fils ». Et ensuite, dans un troisième temps, « Je connais l'Esprit par le Fils aussi ». Et ensuite, on va conclure avec une réflexion sur comment promouvoir une spiritualité, une piété biblique, trinitaire, chaleureuse, vivante. Alors, il va de soi que ce sujet est vraiment vaste, connaître Dieu. Comment est-ce qu'on peut faire ça juste en quelques minutes? Donc, Bien sûr, je lance quelques pistes de réflexion. Et pardonnez-moi si je manque de précision. Je n'ai pas peut-être la précision d'un théologien professionnel. Est-ce que je connais le Père? Alors, je pense dans le milieu où j'ai grandi, en fait, je ne me souviens pas de beaucoup d'enseignements sur la Trinité, Dieu comme Trinité. J'ai grandi quand même dans un milieu fidèle, fidèle aux Écritures. Je pense que l'enseignement portait beaucoup sur Jésus, sur le Fils, sur son œuvre, sur la croix. Alors, quelques années plus tard, peut-être quand j'étais plutôt adolescent, c'était un peu la découverte du mouvement charismatique. J'étais un peu fasciné par ces choses, par les phénomènes qui apparemment relevaient du Saint-Esprit. Quelques années même plus tard, quand j'étais étudiant, peut-être à l'âge de 20 ans, je dirais que j'avais du mal à croire que Dieu me pardonnait tous mes péchés. C'était quelque chose, je luttais pas mal avec ça quand j'avais 20 ans. J'avais du mal à accepter l'amour de Dieu. Peut-être avec du recul, je peux dire que j'avais du mal à accepter l'amour du Père, même si à l'époque, je n'aurais pas dit comme ça. En tout cas, ma connaissance de Dieu comme Père et aussi comme Esprit était assez brouillée. Après la fac en Écosse, dans sa providence souveraine, Dieu m'a conduit dans une église où, avec le temps, j'ai commencé à mieux cerner, mieux comprendre la doctrine de la justification par la foi seule, par Jésus seul. Et c'est quelque chose qui a bien apaisé mes craintes et qui m'a donné une joie, une paix en Christ. Mais je dirais que c'est seulement plus tard, quelques années plus tard, sur les bancs d'un amphithéâtre de la fac de théologie, qu'il y a eu un certain déclic. Jésus, je connais Jésus, j'aime Jésus. Je pense avoir quelques notions vagues, peut-être avec du recul erroné du Saint-Esprit. Mais en tout cas, la question que je me posais, c'est qui c'est ce Père au juste? Qu'est-ce que ça veut dire pour lui d'être Père et pour moi de le connaître, de l'adorer comme Père? Mon prof de systématique nous parlait du Père oublié de l'évangélisme moderne. En tout cas, c'est le début d'un voyage qui n'est pas terminé. Et je pense que ma question, qui est ce Père au juste? Qui est le Père? À mon sens, c'est une question pertinente pour nos milieux. Quand j'entends mes frères et sœurs prier à l'église, je suis frappé, mais pas surpris, étant donné mon propre parcours, par la confusion qui règne dans ce domaine. Je dis ça sans critiquer, en fait, mais beaucoup de personnes prient systématiquement, parfois j'ai un peu l'impression, uniquement vers le Fils. Et le Père ne semble pas trop figurer dans la compréhension de qui est Dieu. Dieu, c'est Jésus. Alors, mon désir ce soir, ce n'est pas de pinailler sur ces genres de choses, ou même d'interdire la prière au Fils. Il y a vraiment une place pour ça. Et même, peut-être, dans une moindre mesure, la prière à l'Esprit. Mais parfois, j'ai un peu peur que dans nos milieux, le Père, en tout cas, à force de mal assimiler la doctrine de la Trinité, on a une spiritualité assez appauvrie. Parfois, peut-être un peu modaliste, je ne sais pas, mais ça c'est peut-être pas vrai. Sinclair Ferguson, un pasteur réformé écossais, dit que si Jésus a passé autant de temps à expliquer la Trinité à ses disciples dans la chambre haute juste avant de mourir, c'est parce que Jésus savait que pour demeurer ferme dans la foi, pour demeurer ferme dans les difficultés de la vie, nous avons besoin de connaître Dieu tel qu'il est vraiment, de le connaître comme le Père qui nous aime, comme le Fils qui s'est donné pour nous, comme l'Esprit qui nous encourage en faisant sa demeure en nous. Et dans les heures qui ont précédé ça, dont Jésus a donné à ses disciples un aperçu magnifique de la personne de Dieu, et en particulier sa vie trinitaire, Alors on pourrait être tenté de penser que dans ces moments difficiles, ils avaient peut-être besoin d'un enseignement un peu plus léger, un peu plus digeste. Mais manifestement, ce n'est pas le cas. Jésus s'y connaît en théologie pastorale. Cet enseignement, cette vision de qui est Dieu dans ses relations trinitaires, c'était vraiment ce dont ils avaient le plus besoin. Est-ce que je connais le Père? Est-ce que je connais l'Esprit? Jésus le Fils sait que c'est important pour moi de les connaître. Il y va de ma maturité spirituelle, il y va de ma persévérance en tant que disciple. Deuxième section, donc, je connais le Père par le Fils. Et je reviens un peu sur les bancs de cet amphithéâtre de la fac de théologie que j'ai faite à Londres, en particulier au cours de mon prof de systématique, Mike Ovey. Je pense que c'était vraiment le cours qui m'a fait le plus de bien à la fac, qui a le plus changé ma relation avec Dieu. Ce que j'ai apprécié dans la démarche de ce prof, c'était son christocentrisme. Pour mieux comprendre notre Dieu trinitaire, nous n'avons pas besoin d'une foi moins christocentrique, mais à la limite plus christocentrique. Et comme le Père nous a dit, on pense à la transfiguration, on a besoin de vraiment écouter le Fils. Dans l'évangile de Jean, nous avons vu ça ce matin, c'est la parole qui prend une chair humaine, qui demeure parmi nous et qui révèle Dieu. Jean 1, 18, personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Et en suivant Jésus, en écoutant Jean lui raconter le ministère de Jésus, on fait connaissance avec ce Père souverain, bienveillant, ce Créateur qui nous aime. Alors qu'est-ce que Jésus a dit au juste? Comment est-ce que Jésus lui révèle le Père? Alors, je me l'ai passé en revue quelques textes trinitaires clés dans l'évangile de Jean. On a déjà fait ça un peu, mais ça ne peut que lui faire du bien. Mon souhait n'est pas de refaire tout un enseignement sur la Trinité, mais de voir comment une bonne compréhension des relations trinitaires, intertrinitaires, du coup, conduit à un amour pour Dieu. Un amour pour Dieu comme Père, comme Fils, comme Saint-Esprit. Ça, c'est ce que je veux faire ce soir. Ça, c'est un peu mon but. Voir comment cette doctrine, voir comment ces relations fonctionnent, comment tout ça nous conduit à aimer Dieu davantage, le connaître davantage, à l'adorer davantage. Jésus peut faire connaître le Père parce qu'il est le Fils venu du Père. Nous avons l'habitude de ce langage, Père, Fils. Quand on pense à l'Ancien Testament, même si on peut voir la pluralité dans l'Ancien Testament, c'est quand même révolutionnaire. Dieu, notre Créateur, est Père. Il a ce Fils, un Fils, éternellement engendré. Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Plus loin, nous disons, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'est vrai, quand on lit le mot « Dieu » dans le Nouveau Testament, on doit cerner s'il s'agit de Dieu comme Père, Dieu le Père, ou à Dieu de manière de la Trinité tout entière, si je puis dire. Je pense que le fait de se poser cette question et de rendre ça explicite, ça peut nous aider à mieux connaître Dieu et aider nos paroissiens aussi à mieux connaître le Père comme le Père et le Fils comme le Fils, etc. Ici, c'est bien le Père qui envoie le Fils, qui donne son Fils. Comme on a vu ce matin dans l'incarnation, nous voyons la priorité, la primauté du Père. C'est lui qui envoie, c'est lui qui donne. Ça veut dire que nous avons un Père qui prend l'initiative. Ça veut dire que nous avons un Père généreux. Nous avons affaire à un Père aimant. Il aime même les pécheurs. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils. Il a donné son Fils. Pour que ceux qui le détestent puissent être sauvés par le moyen de la mort de son Fils. Est-ce que vous voyez comment, à force de noter qui fait quoi, nous faisons meilleure connaissance avec ce Père qui donne, qui est généreux, qui est aimant, qui aime les pécheurs. Emmanuel Durand, citant Grégoire de Nice, parle du fait que nous connaissons le bienfaiteur par les bienfaits qu'il nous donne. Le Père, parce qu'il aime les pécheurs, a donné son Fils unique. Alors, au chapitre 5, nous avons peut-être le premier des grands passages sur la relation entre le Fils et le Père. Ça pourrait vous aider, si vous avez une Bible, d'ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean. On va être pas mal dans l'évangile de Jean ce soir. Donc, au chapitre 5, comme vous savez, il y a un dialogue tendu entre les responsables juifs et Jésus à la suite d'un signe, à la suite d'un miracle. Un miracle que Jésus a fait le jour du sabbat, à côté de cette piscine appelée Bethesda. Alors nous apprenons dans ce passage que parce que Jésus se réfère à Dieu comme son Père, que les Juifs ont accusé de se faire l'égal de Dieu, c'est-à-dire à s'ériger en rival, un autre Dieu, à côté de Dieu. En réponse à cette accusation, Jésus ne dit pas de manière simple « Je suis Dieu ». Il ne dit pas de manière modaliste que « Je suis Dieu apparu en mode humain ». Mais il commence à parler de ce que ça veut dire pour lui d'être le Fils et pour lui d'avoir un Père. Au verset 19, il explique qu'il n'est pas indépendant du Père, car il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Ça veut dire que Jésus fait les mêmes actions que le Père. Et parce que le Père aime le Fils, verset 20, le Père lui montre tout ce que lui-même fait. Nous avons affaire à un Père aimant. Il aime le Fils. On a affaire à un Fils qui se soumet volontairement au Père, qui reçoit tout de son Père, qui l'aime. Bon, dit comme ça, c'est vrai, ça a l'air un peu théologique, mais sur les bancs de cet amphithéâtre, j'ai compris que si je voulais faire la connaissance de mon Père, je devais regarder au Fils, regarder à Jésus, mon Seigneur, mon Sauveur. Jésus se soumet à ce Père qu'il aime. Jésus se plaît à faire la volonté de ce Père, de son Père. Jésus n'est pas un rival du Père. Jésus n'a pas un autre ordre du jour. Il fait tout ce qu'il voit le Père faire. Et le Père lui montre tout ce qu'il fait. Du coup, en Jésus, par Jésus, en regardant à ce que Jésus fait, à ce que Jésus dit, je peux connaître le Père. Je peux connaître le Père de manière fiable. Jésus fait tout ce que le Père lui montre. Si je voulais faire la connaissance du Père, ce Père qui était un peu caché pour moi, un peu oublié pour moi, ce n'est pas une question d'être moins christocentrique, mais encore plus christocentrique. Je pense que c'est un point intéressant quand on pense à ceux de tendance peut-être un peu plus libérale, qui peut-être ceux qui veulent gommer un peu les différences entre les religions. Peut-être ceux qui veulent justifier certains péchés, je ne sais pas. Mais qui veulent mettre en avant un Père tolérant, sans trop parler de Jésus, sans trop parler de la rédemption. Dans la juste connaissance du Père vient par le Fils. Et c'est pour ça que Jésus a lui-même dit, Jean 14, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et les œuvres de Jésus me révèlent non seulement les œuvres du Père, mais par la force des choses, le cœur du Père. Dans Jean 5, Jésus a guéri de manière instantanée un paralytique qui était seul, qui était abandonné. Il n'y avait personne pour l'aider. Et dans ce texte magnifique, nous voyons la compassion, l'amour, la tendresse, la puissance de Jésus. Nous voyons le désir de Jésus de restaurer les créatures meurtries par la chute. On voit Jésus bien aimable, bien attirant. Alors si on s'arrête là, on finit par dire, Jésus je connais, mais qui c'est le Père? Jésus j'aime, mais qui c'est le Père? Ce Père qui, peut-être pour certains, semble lointain, austère. On a tous des a priori négatifs, positifs, ambivalents concernant les pères, peut-être votre père, mon père. Mais il ne faut pas que je m'arrête là. Jésus me montre un père compatissant. Jésus fait les œuvres du Père. Il fait tout ce qu'il voit en termes d'œuvres du Père. Et donc, ça veut dire que le Père est compatissant comme Jésus est compatissant, aimant, tendre, puissant. Il se plaît à redonner vie à ses créatures meurtries. Ce Père est donc connaissable. Je peux connaître de manière fiable mon Père Céleste. Si je regarde au Fils, à ses œuvres, à ses paroles, je peux connaître le Père. Je vois sa gloire. Je vois en Jésus sa grâce. Je vois la vérité du Père. On n'a pas le temps de voir tous les détails de ce chapitre ou même de tout l'évangile de Jean, mais rapidement j'aimerais ajouter quelques détails du chapitre 10 de l'évangile de Jean. Là, Jésus nous montre que si nous sommes ses disciples, c'est parce que le Père nous a donné au Fils. Encore une fois, nous avons un Père qui a pris l'initiative, une initiative élective, souveraine, miséricordieuse. Et ça devrait changer notre perspective du Père. Jean 10, verset 25. Jésus leur répondit, Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur, mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi, nous sommes un. Donc on voit dans ce passage que Jésus nous garde dans sa main. Mais nous sommes aussi dans la main de son Père. Et c'est une image de sécurité extraordinaire. C'est quelque chose qui doit nous apaiser. Et ce qui sous-tend cette image, c'est l'unité du Fils et du Père. Moi et le Père, nous sommes un. C'est l'unité du Père et du Fils qui fonde notre assurance. Ça veut dire que si je connais Jésus comme mon sauveur, je n'ai pas un Père qui est ambivalent à mon égard, lointain, austère, loin de là. C'est lui qui m'a donné à Jésus. Et s'il m'a donné au Fils, il ne va pas changer d'avis. Lui et le Fils me gardent de manière inséparable dans le creux de leurs mains unies. Puis, parce qu'ils sont unis, en Jésus, je rencontre un père qui, contre toute attente, malgré moi-même, il a tout fait pour que je sois à lui, aujourd'hui, demain, après-demain, dans l'éternité. Nous voyons que même si chaque personne de la Trinité ne fait pas exactement la même chose dans notre salut, leurs œuvres sont inséparables parce que les personnes de la Trinité, bien que distinctes, sont inséparables. Peut-être de manière suprême, nous voyons cette unité, ces œuvres inséparables à la croix, où le Fils se soumet volontairement à la volonté de son Père, qui lui donne son Fils comme sacrifice propitiatoire. En même temps, le Fils donne sa vie en rançon, de manière volontaire. L'Esprit qui a soutenu Jésus tout au long de son ministère l'a soutenu à la croix, Hébreux 9, 14. Et après 3 jours, l'a ressuscité puissamment d'entre les morts. Selon Acte 2, c'est aussi le Père qui a relevé Jésus d'entre les morts. Et nous savons de Jean 10 que le Père a donné à Jésus, le Fils, l'autorité de la donner et de la reprendre. Quand on médite ça, on voit à quel point c'est toute la Trinité qui a œuvré pour notre salut. C'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui, de manière unie, ont œuvré pour notre réconciliation. Nous n'avons pas un Père lointain, méfiant, que le Fils a persuadé par sa mort de nous accepter, loin de là. Par la croix, nous avons l'assurance que nous avons un Père qui a pris l'initiative parce qu'il nous aime, parce qu'il nous veut, parce qu'il est bon, parce qu'il est compatissant. Dieu le Père n'est pas un patriarche cruel ou absent ou un monarque méchant ou autoritaire, mais un bon Père dont l'autorité est aimante, bienveillante, généreuse. C'est le Fils qui est l'égal du Père, en rien inférieur au Père, aimé du Père, qui nous montre ça. C'est le Fils qui nous montre un Père en qui on peut avoir confiance. Même quand dans sa souveraineté, il nous fait passer par la vallée de la mort, comme il a fait pour son Fils bien-aimé, à la croix. Jésus nous montre que ce Père souverain et bon est digne de confiance, que nous pouvons nous soumettre à lui, nous pouvons l'adorer. James Packer a dit, « Quand nous parlons de la révélation de la paternité, ou le fait d'être Père, de notre Saint Créateur, nous résumons tout l'enseignement du Nouveau Testament dans une seule phrase. De la même manière, nous pouvons résumer toute la spiritualité du Nouveau Testament si nous la décrivons comme la connaissance de Dieu comme notre Père. Si vous voulez juger combien une personne a bien compris le christianisme, essayez de comprendre à quel point elle apprécie le fait qu'elle est une enfant de Dieu et qu'elle a Dieu pour Père. Si une telle pensée n'est pas celle qui fait jaillir ou qui contrôle son adoration, ses prières et toute sa perspective sur la vie, cela veut dire qu'elle ne comprend pas très bien le christianisme. C'est fort ce que Packer dit. Je pense que c'est tout à fait juste. Et je pense que ça c'est quelque chose qui me motive un peu dans le ministère aussi. Comment promouvoir cette piété trinitaire par l'enseignement, dans la prière, dans les chants. Je vois ce jeune Trevor sur les bancs de l'amphithéâtre de la fac qui avait du mal à connaître Dieu comme Père. Et je pense aussi à tous ces membres d'église paroissiens qui instinctivement vivent une piété qui, je ne sais pas si on peut la décrire ainsi, mais parfois je me dis c'est un peu christomoniste, c'est comme s'il n'y a que Jésus. Il prie à Jésus directement, chose qui n'est pas défendue, bien sûr. Il y a une bonne place pour ça. Mais qui parfois trahit une méconnaissance du Dieu et Père de notre Seigneur et de toute la direction du Nouveau Testament, du salut en général. C'est bien dommage. Jésus veut que nous connaissions son Père comme notre Père. C'est ce qu'il a dit à Marie de Magdala après la résurrection. Jean 20. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Nous pouvons connaître le Père par le Fils. Je vais avancer avec la deuxième réponse. Et je connais le Saint-Esprit par le Fils aussi. Et nous verrons qu'en connaissant le Saint-Esprit, puisque la Trinité est une, nous connaissons aussi le Père et le Fils par lui. Comme j'avais dit tout à l'heure, adolescent, j'étais un peu fasciné par le mouvement charismatique, par ces manifestations de l'Esprit. Ce n'est pas le moment de commenter le bien fondé de tout ça, de toutes ces manifestations. Mais je pense que beaucoup de confusion peut être écartée, enlevée. Beaucoup d'attention malsaine peut être écartée si on voit le lien fort entre le Fils et le Saint-Esprit. Entre le Saint-Esprit et cette parole qui parle du Fils. Nous l'avons cité ce matin dans la bénédiction à la fin de sa deuxième lettre aux Corinthiens. L'apôtre Paul écrit « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, donc l'amour du Père, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Si notre relation personnelle avec le Fils est marquée de manière générale par la grâce, par le fait qu'il nous a délivrés de nos péchés par son sang, et si notre relation personnelle avec le Père est marquée par son amour généreux, dans l'élection, dans le don de son Fils, qu'est-ce que ça veut dire de connaître l'Esprit dans sa communion ? Quelle est cette communion de l'Esprit que Dieu souhaite que nous ayons ? Selon l'apôtre Paul, ça fait partie de la piété biblique normale. C'est le théologien John Owen, 17e siècle à peu près, qui met en avant que nous connaissons en partie cette communion en regardant à la vie de Jésus, à la vie de l'Esprit en Jésus. Jésus est l'homme par excellence qui a communié avec, qui a connu cette communion du Saint-Esprit, qui a été conduit par l'Esprit. On voit dans les textes qu'il est conçu du Saint-Esprit de manière analogique, même si c'est différent. Donc, la naissance est son œuvre souveraine aussi. Dans son baptême, l'Esprit descend sur Jésus et demeure sur lui. Et le Père annonce que Jésus est son Fils bien-aimé. De manière analogique, un peu différente quand même. Sans dire bien sûr que Jésus a été adopté. L'Esprit d'adoption a fait sa demeure en nous. Il déclare à nos cœurs que nous sommes bien des enfants bien-aimés du Père. Et l'Esprit a soutenu Jésus dans le combat, dans le désert, et dont Jésus a résisté au diable par la parole. Et ce même Esprit nous aide à rester fidèles à Dieu par la parole. Jésus, pleinement homme, devait dépendre comme nous de l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus a fixé ses yeux, non pas sur le Saint-Esprit, mais sur le Père. Pensez à la prière, la vie de prière de Jésus. Et l'Esprit nous aide aussi, dans cette communion, d'avoir nos yeux fixés sur Christ et en Christ, sur le Père. On a un accès auprès du Père grâce à Jésus, grâce à l'Esprit. En tout cas, Jésus, dans son humanité, nous montre ce que ça veut dire d'avoir cette communion avec le Père et le Fils. Mais qui est-il ? Comment puis-je connaître plus personnellement l'Esprit ? Comment est-ce que je peux l'aimer ? Dans la chambre haute, Jésus a promis à l'Esprit à ses disciples apeurés, dévastés par l'idée du départ de Jésus. Et Jésus leur a dit, Jean 14, versets 15 à 18, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point. » Il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez. car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Alors, il y a beaucoup de choses dans ces versets-là. Mais ce que je veux mettre en avant, c'est le fait qu'en esprit, nous avons une personne divine qui n'est pas Jésus, mais qui est comme Jésus. Cet esprit vient du Père comme Jésus est venu du Père. Cet esprit est un autre défenseur. Ce mot défenseur n'est pas facile à traduire. On sait plusieurs versions, consolateur, avocat, défenseur en justice, défenseur, celui qui vient en aide, conseiller. C'est un mot juridique, mais ce n'est pas un mot froid ou technique. Suivant l'interprétation de Sinclair Ferguson, c'est un ami qui nous accompagne devant le juge et qui plaide notre cause parce qu'il nous connaît dans notre faiblesse. Dans 1 Jean, ça c'est une. Comment dire, je n'ai pas cité exactement Sinclair Ferguson, mais c'est comme ça que je l'ai entendu dans une prédication à peu près. Dans 1 Jean, nous lisons « Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, qui est juste. » Jésus est notre défenseur. Et Jésus demande au Père de donner un autre défenseur à ses frères, à ses sœurs. Cet esprit est comme Jésus. Il vient pour être là à la place de Jésus, à nos côtés, en nous. En l'esprit, nous avons un qui est comme Jésus. Et quand on pense à notre relation personnelle avec l'esprit, ça change tout. Il est comme notre Seigneur et Sauveur. Cet esprit est comme notre Sauveur, celui qui nous aime. Comme Jésus, il révèle Jésus. Progressivement, par la parole, l'esprit révèle, il enseigne la beauté de Jésus. Il révèle aussi notre péché, tout comme Jésus dans les évangiles, tout au long de son ministère terrestre, a révélé le péché de l'homme. Tout comme Jésus appelle et fait venir ses disciples à lui pour croire en lui, l'Esprit, de manière souveraine, envoyé par le Père et le Fils, conduit ceux que le Père a choisis au Fils. Tout comme Jésus prépare pour nous une demeure dans la maison de son Père, l'Esprit fait une demeure pour le Fils et le Père dans nos cœurs, dans nos vies. Jésus enseigne à ses disciples comment prier. Jésus intercède pour ses disciples dans la chambre haute. De même, l'Esprit Saint nous vient en aide dans la prière. Il intercède pour nous. Tout comme Jésus affirme la foi de ses disciples et leur dit qu'ils sont bien des enfants du Père, ce même esprit crie dans nos cœurs, Galates 4, verset 6, crie Abba Père. Ce même cri qui était dans le cœur de Jésus, dans le jardin. Avec l'esprit, nous ne sommes pas orphelins. Est-ce que vous voyez que c'est aussi par le Fils, en regardant au Fils, qu'on connaît l'esprit, un autre défenseur, comme Jésus, à nos côtés, en nous. Si j'aime Jésus, comment ne pas aimer cet esprit, ce défenseur qui nous a donné? Il est le vrai vicaire de Christ, si je puis dire. Cet esprit est bien l'esprit de Jésus. Cet esprit, l'esprit du Père et du Fils, a fait sa demeure en nous. Après avoir promis qu'il demanderait au Père d'envoyer le Fils, Jésus ajoute, Jean 14, verset 20, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. » Jésus parle d'une union très forte entre lui et le croyant, grâce à l'Esprit qui sera envoyé. Jésus est en nous, et nous sommes en Jésus. Je ne sais pas si j'ai raison de faire le parallèle, mais Jean, me semble-t-il, évoque un peu cette idée qu'on trouve chez Paul, de cette union à Christ par la foi. Par l'Esprit qui nous a régénérés, qui nous a conduits à la foi et à la repentance, nous sommes unis à Jésus, cachés en lui. Cachés en Jésus qui a toute l'approbation du Père. Si je reviens au jeune Trevor, qui venait de mieux comprendre la justification par la foi seule, par Jésus seul, ce jeune Trevor qui avait la conscience un peu plus apaisée. Ici, on voit pourquoi. Ce n'est pas juste Jésus qui fait que j'ai cette paix. C'est toute la Trinité. C'est toute l'œuvre de la Trinité. C'est grâce à l'Esprit. Grâce au défenseur que je suis uni à Jésus. Ce Jésus que le Père a donné. Ce Jésus qui m'a aimé jusqu'à l'extrême. Et en Jésus, caché en lui, par l'Esprit, je suis, comme l'apôtre Paul nous enseigne, justice de Dieu. Je suis au bénéfice de sa mort sacrificielle, suffisante. Je suis au bénéfice de sa vie d'obéissance parfaite. Je suis couvert de sa justice. Et le Père, puisque j'ai la justice de Jésus créditée à mon compte, si je puis dire, me déclare juste à ses yeux, en bon terme avec lui, aujourd'hui et dans l'éternité. Quand l'apôtre Paul médite sur cette vérité-là, il dit qu'il considère tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ. Et c'est grâce à l'Esprit que nous sommes unis à Jésus. Comment ne pas remercier le Père pour cet Esprit qui a ouvert nos yeux, qui nous a conduits à Jésus, ce Jésus en qui nous avons la justice de Dieu, l'amour du Père. Grâce à l'Esprit, nous avons tout. Comment ne pas aimer un tel Esprit? Et plus que ça, même si ça c'est déjà énorme, le Père qui m'a déclaré juste, juridiquement libre de m'en aller, ne me laisse pas aller. Loin de là. Il me prend dans ses bras. Il m'appelle son fils, son enfant bien-aimé. Il m'aime comme Jésus, parce que je suis en Jésus, uni par l'Esprit à son fils obéissant et juste. Si je sais dans mon cœur que... Si je sais ça dans mon cœur, c'est grâce à l'Esprit. Cet esprit d'adoption qui crie dans mon cœur, « Abba Père !» Grâce à l'Esprit, je ne suis pas orphelin. Cet esprit qui est la communion entre le Père et le Fils est aussi celui qui me conduit dans la présence du Fils, qui me cache dans le Fils. Et par le Fils, je suis dans la présence du Père. Cet esprit me donne un sauveur. Et il me donne un Père qui m'aime. Et donc cette communion du Saint-Esprit est vraiment un cadeau inestimable. C'est ainsi qu'il me conforte, qu'il m'aide, qu'il me soutient, en me rappelant Christ, que je suis en Christ, caché en lui. En me rappelant que plus personne ne peut m'accuser. Je suis en Christ. Et donc le Père me déclare juste. Le Père me déclare un enfant aimé de Dieu. Alors, ce que j'ai voulu démontrer, c'est à quel point une méditation sur les personnes de la Trinité et leurs actions uniques, pourtant inséparables, nous conduisent à l'adoration, aux actions de grâce, à la prière. En fait, toute notre adoration, toute notre piété chrétienne découle de cette connaissance de notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. J'aimerais, en guise de conclusion, juste parler brièvement de quelques pistes pour promouvoir une piété trinitaire chaleureuse, vivante, qui connaît son Dieu, qui l'aime, qui le connaît et qui l'aime comme Père, comme Fils et comme Saint-Esprit. Les deux poumons, si je puis dire, les deux poumons de notre spiritualité, de notre piété, sont la méditation biblique et la prière. Dieu nous parle dans sa parole. Et nous lui parlons dans la prière, peut-être aussi par la prière chantée. Le défi que je vois pour moi, peut-être pour nous tous dans le ministère, c'est d'enseigner la parole de manière fidèle. Et en l'enseignant de manière fidèle, de conduire chacun à méditer la Trinité, la gloire de notre Dieu. Et dans l'enseignement, je vois au moins trois pistes qui peuvent nous aider à promouvoir une spiritualité trinitaire chaleureuse. D'abord, la prédication soignée du texte. Ensuite, une bonne théologie biblique et aussi une saine théologie systématique. La prédication soignée du texte. On va passer du temps ce soir dans l'évangile de Jean à réfléchir au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Mais ces thèmes sont là, on l'a vu ce matin, dans les synoptiques et aussi, bien sûr, dans les épîtres. Dans l'Ancien Testament, on voit cette pluralité, mais on a là peut-être plus besoin de faire usage de la théologie biblique pour voir la progression, la révélation progressive, la révélation de notre Dieu comme Père, Fils et Saint-Esprit. En tout cas, en fonction du texte, en fonction du message particulier de chaque texte, quand c'est approprié, sachant qu'il y a beaucoup de confusion dans ce domaine, dans nos églises, je pense, en tout cas si je pense à mon église et aux jeunes trébors sur les bancs de cet amphithéâtre, il y a beaucoup de confusion qui finit par saper notre connaissance de Dieu et donc notre adoration de Dieu. Je pense que c'est très utile de faire ressortir, autant que faire se peut, les relations trinitaires, de montrer de manière explicite qu'est-ce que le Père fait exactement, qu'est-ce que le Fils fait exactement, pour que nous puissions connaître le Père comme Père, le Fils comme Fils, l'Esprit comme Esprit. C'est ainsi que nos paroissiens ont pris l'habitude de voir ça dans les textes, de voir les rôles de chaque personne de la Trinité, dans l'unité de notre Dieu unique. Si on voit texte après texte, la beauté de la grâce du Seigneur, l'amour du Père, la joie et la paix dans la communion du Saint-Esprit, on sera conduit à connaître plus amplement notre Dieu et à l'aimer plus chaleureusement. Et on sait que la connaissance authentique de Dieu, c'est ça ce qui nous transforme, c'est ça ce qui nous guérit. Ensuite, deuxième piste, la théologie biblique. De nos jours, on parle fréquemment d'église centrée sur l'évangile. Je ne sais pas si vous avez entendu cette expression. Une église centrée sur l'évangile, ou centrée sur Christ, ou peut-être l'expression la prédication christocentrique. Quelque part, tout ça, c'est le défi d'expliquer, enseigner les Écritures à la lumière de la révélation complète de l'évangile, à la lumière de la révélation de tous les desseins de Dieu. C'est une bonne chose. Il faut qu'on enseigne de manière christocentrique, centrée sur l'évangile de la grâce. Mais parfois, comment dire ça? Parfois, je peux me poser la question de si on ne va pas assez loin. Cet évangile de Jésus-Christ est aussi l'évangile du Père qui concerne son Fils. Le royaume de Dieu, notre Père, a pour médiateur le Fils. Et de manière ultime, le Fils, tout en restant l'égal du Père, assis sur le même trône. Comme on a vu ce matin, 1 Corinthiens 15, verset 28, à l'accomplissement de toutes choses, il va remettre le royaume à son Père et se soumettre à lui dans l'éternité. Soyons donc centrés sur Christ d'une manière qui regarde au-delà du Fils vers notre bon Père céleste, que le Fils révèle. Emmanuel Durand parle d'un christocentrisme qui a aussi une patrifinalité. Des termes un peu complexes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si notre enseignement est christocentrique de manière fidèle, il nous conduira au bras ouvert de ce Père souverain et bienveillant. Et grâce à l'Esprit, on sera conduit à adorer notre Dieu. Père, Fils et Saint-Esprit. Troisième piste, la théologie systématique. Je pense que je ne sais pas si les cours sur la Trinité en tant que telle, si c'est ce dont nos paroissiens ont le plus besoin, je ne sais pas, quand même oui, je ne vais pas dire le contraire, mais Je pense que ce qui est quand même important, c'est qu'ils aient une bonne compréhension de la doctrine du salut et comment chaque personne de la Trinité a agi dans ce salut, dans leur salut. L'élection, l'appel, la nouvelle naissance, l'union avec Christ, la justification, l'adoption, l'espérance. Je rêve d'une situation où les paroissiens peuvent dire de manière simple, selon dans leurs mots à eux, Dieu mon Père m'a choisi dès avant la fondation du monde. Mon Père m'a appelé à lui. Il a fait par son esprit, qui par la parole m'a conduit à Jésus. C'est l'esprit qui m'a rendu vivant, qui m'a régénéré. C'est l'esprit qui m'a conduit à Jésus, qui m'a fait voir Jésus dans sa beauté, qui m'a conduit à la repentance et la foi. C'est l'esprit qui m'a uni à Christ. En Christ, j'ai toutes les bénédictions divines. Dieu mon Père, en me voyant caché en Jésus, m'a déclaré juste. Je suis plus couvert des saletés honteuses de mon péché, mais en Christ, caché en lui, j'ai la dignité d'être un fils aimé du Père. Il a mis son esprit en moi qui crie « Abba Père, je suis au Père ». Cet esprit a contenu de me soutenir pour que je sois transformé à l'image de Jésus. Ce Jésus qui a toute l'approbation du Père. Et je sais qu'il va le faire. Il va accomplir ce qu'il a commencé. Et alors, je serai avec mon Dieu. Et je le connaîtrai. Je vais le connaître comme j'ai été connu. Et je vais le connaître comme Père, Fils et Saint-Esprit. Bien sûr, c'est peut-être un rêve un peu ambitieux que chaque membre arrive à être clair sur ces choses-là. Et c'est un défi de rendre ces doctrines simples et claires, d'en parler de manière répétée, pas simplement de faire des cours et ensuite c'est oublié, mais en fait de redire ces choses sans cesse pour qu'à la longue, ces choses soient une évidence. Et une piste... c'est, je pense, la prière. Donc, c'est la deuxième poumon de notre spiritualité. Et je ne vais pas vraiment en parler, mais on pourrait peut-être dire la même chose pour les chants. Alors, sans faire de la prière un cours de doctrine élaboré, je pense que ça, c'est peut-être tombé dans le piège. Jésus l'a mis en garde en Matthieu 6 avec ses prières, un long prière. Mais je pense qu'on peut aider nos frères et sœurs en Église. On peut leur montrer ce que ça veut dire d'avoir une communion authentique avec Dieu, notre Père, par la prière. En tant que pasteur, en tant qu'ancien diacre, diaconesse, assistant de paroisse, on a souvent les occasions de prier publiquement. Et je crois que ça, c'est un moyen pour promouvoir la piété biblique trinitaire. En parlant à notre Père, de façon simple, de qui il est. Merci Père, de ce que tu es un Père généreux. Je le vois en Jésus. Merci pour ce que tu as fait pour nous en Jésus. Merci de ce que tu as donné ton esprit qui crie en moi, Abba Père. Merci mon Père de ce que ton esprit m'a donné une nouvelle naissance, la nouvelle naissance. Et à force, dans la prière, de manière simple et claire, de poser la doctrine, on imprègne nos propres cœurs, se prêche l'Évangile, et on aide les autres à voir ce que ça veut dire d'avoir cette communion. Même s'il y a une place pour parler, pour prier directement le Fils, et si ça c'est une question que vous avez, je vous renvoie peut-être à... un article de Thierry User dans Okma qui parle spécifiquement de comprier le Fils. Je pense que le modèle normal de la prière, c'est quand même de prier le Père. C'est Jésus qui nous a enseigné comment prier, c'est le Notre Père. on s'adresse au Père, au nom du Fils, dans l'Esprit. Et la prière publique, c'est vraiment l'occasion de remercier notre Père en toute simplicité pour son choix immérité, pour l'œuvre souveraine de son Esprit. Pour lui remercier pour Jésus. Pour lui remercier pour la justification, pour l'adoption. Bien sûr, à chaque fois, on ne peut pas donner un cours, mais juste de temps en temps, peut-être un aspect de ces choses. Et dans la durée, communiquer cette chaleur, le fait qu'on connaît ce Père par Jésus. On s'approche de lui, on est dans sa présence grâce à Jésus. J'aime bien dire à la Garenne qu'au moment de. On fait souvent, assez souvent, une prière de confession. J'aime bien dire que, aux gens que c'est un moment familial. On ne vient pas au Père pour confesser nos fautes dans la crainte servile, à la peur de l'esclave qui a peur de se faire battre, mais dans la crainte filiale, on est des enfants aimés du Père, on est déjà justifiés. On entre dans sa présence avec assurance parce que nous sommes en Jésus. Dieu nous a déjà déclarés justes. Et c'est ça ce qui nous donne la liberté de confesser nos fautes. Nous sommes déjà aimés. Nous avons déjà toute cette approbation. Et je pense, à force de faire ce genre de choses de manière simple, ça montre une piété trinitaire qui fait envie, qui donne envie. Une piété où la joie et la paix en Christ devant le Père qui nous aime dans la communion du Saint-Esprit foisonnent et conduit finalement à l'adoration. Je vais terminer là et je vais terminer par la prière. Et je vais juste citer comme prière la prière de Paul, l'apôtre Paul, dans Éphésiens 3. Une prière bien trinitaire qui est un bon modèle pour nous. Donc je vous invite à la prière. Notre Père, nous fléchissons les genoux devant toi, le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin que tu nous donnes, selon la richesse de ta gloire, de nous fortifier par ton esprit dans notre homme intérieur, de sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour, afin que nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ. Cet amour qui surpasse toute connaissance. Et ça, de sorte en sorte que nous soyons remplis de ta plénitude. Et nous te demandons ces choses au nom de ton Fils bien-aimé.